Vous écoutez, on lit pour vous.
La culpabilité maternelle, c'est assez. Un texte de Véronique Larocque, paru le 20 avril 2025 dans la presse. Peu importe où je me trouve, je me sens coupable. Je travaille, je me sens coupable de ne pas être auprès de mes enfants. Je suis à la maison, je me sens coupable de ne pas travailler. Mes enfants sont à la garderie quand je ne travaille pas. Je me sens coupable de prendre du temps pour moi, témoigne une mère dans le livre « Le mythe de la mère parfaite », se libérer de la culpabilité maternelle. Si la psychologue Laurie Zéphir et la journaliste Jessica Brazo ont décidé d'écrire un ouvrage complet sur le sujet, c'est qu'il s'agit de l'enjeu dont les mères leur ont le plus parlé depuis qu'elles ont fondé la plateforme « Ça va, maman » il y a 5 ans. Nous voulons créer un mouvement qui réfute la culpabilité dans notre maternité comme elle est actuellement. Ce mouvement qui dit « c'est assez », écrit le duo dans son livre publié récemment aux éditions de l'Homme. En soi, ressentir de la culpabilité n'est pas mauvais, explique attablée au M Café à Montréal la psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. La culpabilité, c'est ça. Parce que c'est ce qui nous amène à réfléchir à nos actions, à vouloir essayer de faire mieux, à faire différemment, à réparer. Or, comme le soulignent différentes études présentées dans l'ouvrage, lorsque cette émotion devient envahissante, elle nuit grandement à la santé psychologique des mères. Être celle qu'on n'est pas. En ce moment, cette émotion est beaucoup activée chez les mamans, poursuit Laurie Zéphir. Ça ne vient pas juste d'elle-même envers elle-même, mais de l'extérieur aussi. Il y a un nombre important de discours qui amènent les mères à se sentir coupables rapidement, alors que dans les faits, ont-elles vraiment fait quelque chose de mal? Leur crime est souvent de ne pas correspondre parfaitement à l'image de la bonne mère véhiculée par la société. À l'heure actuelle, cet idéal est, selon de nombreux experts, rattaché à l'idéologie de la maternité intensive. La bonne mère, c'est celle qui est totalement investie auprès de ses enfants. Tous ses temps libres, tous ses passe-temps, toute son énergie, tout son temps, détaille Laurie Zéphir. Or, ce ne sont pas toutes les mères qui veulent jouer leur rôle de cette façon. Je pense qu'on essaie d'appliquer une parentalité à des mères qui sont toutes différentes, avec un background différent et avec des enfants différents, souligne Jessica Brazo, journaliste et autrice. Dans son ouvrage, le duo aborde toutes sortes de petites et grandes situations culpabilisantes pour les mères. Il est notamment question de la séparation, un événement vécu par 23% des familles québécoises, selon les données de 2019 de Statistique Canada. La famille nucléaire s'est encore très valorisée. Quand tu brises ça, tu as l'impression que tu es en train de gâcher la vie de tout le monde, confie Jessica Brazo, qui s'est elle-même séparée du père de ses enfants et qui en témoigne avec transparence et sensibilité dans un chapitre. La mom rage, cette colère imprévisible, soudaine et violente, est également une réaction qui fait naître beaucoup de culpabilité chez les femmes que les autrices ont rencontrées. On a tellement valorisé la mère sacrifice, celle qui n'a pas d'émotion, que rien ne dérange, commence Laurie Zéphir. En fait, elle a des émotions. Mais elles sont positives, rebondit Jessica Brazo. Elle est calme, douce, accueillante. La psychologue opine et ajoute, « Elle peut être ça, la maman, mais elle peut être humaine aussi. » À un moment donné, si ça fait 3 fois que je répète à mon enfant d'aller mettre ses chaussures et qu'il ne les met pas, c'est normal que ça me fasse vivre de la colère. Laurie Zéphir ajoute, « On veut dire aux mamans, vous êtes normales. » arrêtez de vous taper sur la tête. Se défaire de la culpabilité. Comment fait-on pour se défaire de la culpabilité? Un truc qui a beaucoup aidé Jessica Brazo a été de faire le portrait de la mère qu'elle souhaiterait être. Si je fais la liste de la mère idéalisée que je porte en moi, ce n'est pas réaliste dans le quotidien, constate-t-elle. Laurie Zéphir aime beaucoup le concept de la mère suffisamment bonne développé par différents experts. Dans la mère suffisamment bonne, il y a aussi l'idée d'amener les mamans à ne pas juste voir les manques, mais à voir ce qu'elles apportent à l'enfant. Si on fait juste voir ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on n'est pas, c'est sûr que la culpabilité revient souvent. Le duo derrière l'émission Balado « Ça va, maman » invite les femmes à se concentrer sur leurs forces et à en être fières. Grâce aux témoignages variés qu'il contient, l'ouvrage permettra de nombreuses mères de constater qu'elles ne sont pas seules à ressentir de la culpabilité au quotidien. On espère que ça va être un début de communication entre elles, souhaite Jessica Brazo. Montrons-nous notre vulnérabilité. Montrons-nous notre authenticité. C'est comme ça qu'on va arriver à déconstruire cette vision impossible de la parentalité, conclut Laurie Zéphir. C'était « La culpabilité maternelle, c'est assez », un texte de Véronique Larocque paru le 20 avril 2025 dans La Presse.
Pas encore de prime verte pour les agriculteurs qui améliorent leur bilan carbone. Un texte d'Alexis Riopel paru le 19 avril 2025 dans Le Devoir. Pour freiner l'emballement du climat, il faudrait mettre les bouchées doubles. Le secteur de l'agriculture qui compte pour 10 % des émissions de gaz à effet de serre, GES, du Québec, renferme un formidable potentiel. Toutefois, même les agriculteurs les plus motivés, qui améliorent leur bilan carbone, peinent à obtenir un revenu pour ces efforts. Vu l'urgence climatique, il faut rapidement arrêter d'envoyer du carbone dans l'air et plutôt le stocker dans le sol, affirme Christian Grenier, un producteur de porc d'Ange Gardien en Montérégie, qui s'efforce d'adopter de meilleures pratiques pour le climat. Pourtant, la réduction de ses émissions de GES, comme celle de ses pairs, n'est pas encore monétisable auprès de ses acheteurs dans le système agroalimentaire actuel, déplore-t-il. Des initiatives voient le jour. On calcule des bilans carbone, on suggère des pistes d'amélioration, on fait miroiter de l'argent aux producteurs, mais les paiements incitatifs ne sont pas encore au rendez-vous. En ce moment, c'est la folie, mais c'est encore très peu encadré, sinon pas encadré du tout, dit Maude Fournier-Farley, directrice principale de l'innovation et des solutions d'affaires chez Solio Agriculture, une filiale du groupe coopératif Solio, qui compte 120 000 membres. Dans l'ensemble, le secteur agricole québécois devra trouver une voie de passage pour réduire ses émissions de GES qui surpassent celles du secteur du bâtiment. Infléchir la courbe s'annonce difficile. Les émissions liées à l'agriculture font du surplace depuis une vingtaine d'années. Trois grandes composantes y contribuent, la digestion des animaux, les fumiers et la gestion des sols. Dans cette bataille contre le CO2, deux principales options se présentent. Réduire les émissions et favoriser la séquestration de carbone dans le sol. La première option permet d'agir plus vite, mais la seconde entraîne davantage de co-bénéfices, souligne Marie-Élise Sanson, professeure en sciences des sols à l'Université Laval. Un sol riche en carbone, c'est généralement un sol en bonne santé chimique, physique et biologique, dit-elle. Pour 2030, le gouvernement du Québec vise une réduction de 5 % des émissions des sols en culture par rapport à 2017 et de 6 % des émissions de méthane des élevages. Ces cibles sont moins élevées que celles fixées pour l'ensemble de l'économie, moins 37,5 % par rapport à 1990. D'ici 5 ans, la pression sur les agriculteurs proviendra surtout de l'industrie agroalimentaire, car les transformateurs sont nombreux à s'être dotés de cibles exigeantes qui s'appliquent à l'ensemble de leur chaîne de production. Or, même si 2030 approche vite, les morceaux du casse-tête ne sont pas encore en place. On ne sent pas encore cette pression-là sur le plancher des vaches, dit Pascal Vien, propriétaire d'une ferme laitière située à Attelé, en Estrie, qui œuvre à améliorer son bilan carbone depuis des années. Ses acheteurs ne lui versent pas encore de primes vertes pour son lait, mais M. Vien croit que cela viendra. L'industrie agroalimentaire n'a pas encore envoyé le message aux producteurs, soutient également Renaud Péloquin, un producteur de grandes cultures et de veaux de grains de Sainte-Victoire-de-Sorel, en Montérégie, qui s'efforce de réduire ses émissions de GES et d'améliorer la santé de sa terre. Lui non plus ne monnaie pas encore ses gains. Créer des modèles d'affaires. Chez Solio, on veut développer des modèles d'affaires qui permettront aux producteurs de grandes cultures, maïs et soya, d'adopter des pratiques agricoles sobres en carbone. En 2022, le groupe a lancé le projet Agrocarbone Grande Culture avec la firme spécialisée Coop Carbone. L'idée, élaborer des procédures simples pour les agriculteurs qui veulent valoriser financièrement leur réduction d'émissions. Les instigateurs veulent proposer plusieurs options aux participants pour que chacun puisse trouver un modèle adapté à sa réalité d'affaires. D'emblée, un producteur devra décider s'il veut créer des crédits carbone pour de tierces parties, offsetting dans le jargon, ou bien les réserver aux entreprises agroalimentaires qui achètent ces produits, insetting, explique Emna Marouani, directrice de la gestion des GES à la Coop Carbone. Une fois que les modèles d'affaires échafaudés par Agrocarbone seront prêts, un passage à l'action est prévu en 2026 auprès de 90 producteurs de maïs et de soya de la Montérégie. Ceux-ci implanteront l'une ou l'autre de 3 pratiques agricoles visant à améliorer leur bilan carbone, des cultures pérennes, foin, dont les racines enrichissent le sol, des cultures de couverture qui réduisent les GES liés aux engrais de synthèse ou de l'agroforesterie qui implique la plantation d'arbres. Les producteurs qui voudront vendre des crédits carbone pourront se tourner vers le marché volontaire où de grandes entreprises comme IBM, Barclays et Shopify compensent leurs émissions. Solio et la Coop Carbone envisagent d'ailleurs de créer une nouvelle entité pour prendre en charge la vente de ces crédits au nom des agriculteurs. En parallèle, les deux partenaires sont à la recherche de financements publics pour les agriculteurs qui voudraient vendre des crédits compensatoires dans le cadre du système fédéral de tarification du carbone industriel. Ils ont déposé une demande de subvention de 2 millions de dollars à Environnement et Changement climatique Canada. S'ils l'obtiennent, le fédéral va subventionner les projets à 50 % et gardera 50 % des crédits carbone. Faire la transition à coût nul. Partout au Canada, le secteur agricole est exclu de la tarification du carbone industriel, sauf par l'entremise des carburants qu'ils consomment. On donne toutefois aux agriculteurs la possibilité de créer des crédits carbone pour compenser les émissions des cimenteries, des raffineries, des alumineries, etc. Au Québec, le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission, SPEDE, surnommé « marché du carbone », comprend 2 protocoles de crédit compensatoire agricole. L'un se rapporte à la destruction du méthane d'une fosse à lisier et l'autre à la biométhanisation des lisiers. Dans les deux cas, aucun promoteur n'y a jamais adhéré. Participer au marché réglementaire, ça coûte très cher, souligne Sylvestre Delmotte, un consultant en agro-environnement dont le mandat principal se rattache à AgriClimat, un service d'accompagnement pour l'agriculture sobre en carbone et adaptée au changement climatique qui est financé par Québec. Selon M. Delmotte, une panoplie de pratiques agricoles permet aux producteurs d'améliorer leur bilan carbone à coût nul ou même en dégageant un profit et en évitant la paperasse inévitable des crédits carbone. Je crois fondamentalement qu'il y a des choses qu'on peut faire à court terme pour améliorer les bilans carbone sans devoir monnayer les réductions avec des crédits, dit-il. Pour arriver à des réductions majeures des GES, de l'ordre de 50 % ou plus, il faudra toutefois mettre en place un système efficace d'incitation financière, croit l'agronome. Dans ce contexte, qui marie incertitude et urgence, Pascal Vien, l'éleveur laitier de l'Estrie, garde son calme. Il modifie ses pratiques pour que son champ devienne un puits de carbone plutôt qu'une source. Le jour où AgroPure me demandera des réductions, je serai prêt, promet-il. C'était « Pas encore de prime verte pour les agriculteurs qui améliorent leur bilan carbone », un texte d'Alexis Riopel paru le 19 avril 2025 dans Le Devoir.
Défoncer les stéréotypes après 60, 70, 80 ans. Un éditorial de Linda Priestley, paru dans Bel Âge. Souvent, dans l'imaginaire collectif, les gens qui arrivent à 60 ans ou à 65 ans, l'âge de la retraite, disparaissent dans une espèce de trou noir où tout le monde a le même statut, vieux. Pourtant, entre 60 et 82 ans et demi, l'âge moyen de l'espérance de vie à la naissance au Québec, hommes et femmes confondus, il y a des jalons que l'on pose qui sont tout aussi significatifs que ceux qui marquent notre existence de la naissance à l'âge adulte. Pensons-y, jamais on ne mettrait dans le même bateau un écolier qui entre à la maternelle et un diplômé universitaire qui décroche son premier emploi qui le mènera à une carrière enrichissante. À l'intérieur de deux décennies, il s'en passe des choses, et ce, peu importe que cette vingtaine d'années se trouve au début ou à la fin de notre vie. N'oublions pas non plus qu'avec l'augmentation graduelle du nombre de centenaires au Québec ou ailleurs, les Jeannette Bertrand de ce monde auront un 20 ans supplémentaire à combler et à chérir, pourvu que ça les intéresse ou que leurs conditions physiques ou mentales le leur permettent, bien sûr. Que faire de tout ce temps? Pour la psychologue Laura Carstensen, directrice du Centre de recherche sur la longévité de l'Université Stanford, en Californie, il n'y a aucun doute quant à notre capacité d'en faire bon usage. Malgré les défis du vieillissement, notre santé émotionnelle serait, selon elle, plus stable à 60, 70, 80 et plus qu'elle ne l'était quand on était jeune. Nos horizons temporels seraient certes moins élargis, mais loin de nous décourager, au contraire, cette réalité nous inciterait à nous concentrer davantage sur le présent, réduisant ainsi le stress lié à l'incertitude. Comment alors maximiser ces avantages du vieillissement? Madame Carstensen, elle-même septuagénaire, suggère aux grands décideurs de dessiner ce qu'elle appelle une nouvelle carte de la vie. Plutôt que d'allonger uniquement la vieillesse, dit-elle, on gagnerait à reconfigurer toutes les étapes de la vie. Par exemple, en étirant la période des études scolaires, qui pourrait inclure 2 années de pause au secondaire ou au cégep, afin de permettre aux élèves de faire du service communautaire ou un stage professionnel. une plus grande flexibilité dans la vie professionnelle en réduisant les semaines de travail à 4 jours et à 6 heures par jour, ou en proposant des horaires plus légers pour les parents de jeunes enfants, ferait en sorte que les travailleurs arriveraient à la soixantaine moins épuisés et suffisamment motivés pour rester plus longtemps sur le marché de l'emploi. La retraite, selon la psychologue, ne devrait plus être définie par l'âge de 65 ans, mais par l'état de santé ou la volonté individuelle. L'idée est de permettre aux gens de travailler plus longtemps à un rythme moins intense, tout en continuant à contribuer activement à la société. Peut-on rêver d'une société future où les 60, 70, 80 et plus ne seront pas que des vieux, où chacun d'entre nous vivra pleinement et restera en bonne santé fonctionnelle pendant la majeure partie de sa vie, et où ses compétences et ses talents à chaque étape de son parcours entre la naissance et la mort, seront valorisés pour le bien de tous? Pourquoi pas? Après tout, devenir des acteurs de changement à nos âges, c'est positif. Le saviez-vous? Contrairement aux idées reçues, les personnes âgées répondent bien aux thérapies cognitives et comportementales, d'où l'importance de leur faciliter l'accès à ce type de soins afin de les aider à vieillir positivement. C'était « Défoncer les stéréotypes après 60, 70, 80 ans », un éditorial de Linda Priestley, paru dans Bel Âge.
Jean, Benoît, Paul, quels sont les noms les plus portés par les papes? Un texte de la rédaction paru le 22 mars 2025 dans « Ça m'intéresse ». Depuis des siècles, les papes adoptent un nom pontifical qui marque leur règne. Certains prénoms ont été privilégiés bien plus que d'autres, témoignant de traditions ancrées au sein de l'Église catholique. Mais quels sont ceux qui ont été le plus souvent choisis? Et pourquoi certains noms sont-ils si populaires parmi les souverains pontifes? Lorsqu'un cardinal est élu pape, il abandonne son prénom de naissance pour en choisir un nouveau, souvent inspiré par un prédécesseur ou un saint qu'il souhaite honorer. Cette tradition remonte au pape Jean II en 533, qui refusa de conserver son nom de naissance, Mercurius, jugé trop païen. Depuis, certains noms ont été largement repris, reflétant l'influence de figures marquantes de l'histoire de l'Église. Quels sont les prénoms les plus utilisés par les papes? Pourquoi ces choix reviennent-ils si souvent? Et y a-t-il des noms désormais évités? Quel est le prénom le plus porté par les papes? Sans conteste, le prénom Jean est le plus fréquemment porté par les papes. Depuis Jean II en 533 jusqu'à Jean-Paul II en 1978, qui, bien qu'associant Jean et Paul, comptait tout de même dans cette tradition, ce prénom a été adopté par 23 souverains pontifes. Son succès s'explique par la figure centrale de Jean l'Évangéliste dans la tradition chrétienne, ainsi que par l'influence de Jean-Baptiste, précurseur du Christ. Le deuxième prénom le plus courant est Grégoire, porté par 16 papes, en hommage à Grégoire Ier, dit Grégoire le Grand, un réformateur majeur du VIe siècle. Suit ensuite Benoît, choisi par 16 papes, notamment en raison de Saint Benoît de Nursie, fondateur de l'ordre bénédictin et figure clé du monachisme occidental. Pourquoi certains noms de papes reviennent-ils plus souvent? Le choix du nom pontifical n'est pas anodin. Il est généralement dicté par un désir de continuité avec un pape précédent, considéré comme un modèle spirituel et doctrinal. C'est pourquoi des prénoms comme Jean, Benoît ou Grégoire reviennent fréquemment. Ils rappellent des figures ayant marqué l'histoire de l'Église. L'usage du prénom Léon, porté par 13 papes, s'explique ainsi par la référence à Léon Ier, dit Léon le Grand, qui joua un rôle crucial dans la définition de la primauté de Rome au 5e siècle. De même, Célestin a été choisi par plusieurs papes en raison de la sainteté reconnue de Célestin V, bien qu'il ait abdiqué en 1294. À l'inverse, certains prénoms sont devenus plus rares, soit parce qu'ils sont associés à des papes jugés controversés, soit parce qu'ils n'ont pas marqué l'histoire de manière significative. Par exemple, le nom Innocent, pourtant porté par 13 papes, n'a plus été utilisé depuis le 18e siècle. Existe-t-il des prénoms de papes aujourd'hui évités? Certains noms semblent désormais tomber en désuétude. Par exemple, Pie, porté par 12 papes, n'a plus été choisi depuis Pie XII, 1939-1958. De même, Innocent, malgré sa popularité jusqu'au 18e siècle, a disparu des choix récents. Ces noms, bien qu'ils aient marqué l'histoire, sont peut-être jugés trop datés ou associés à des périodes controversées. Un autre exemple frappant est Urbain, qui a été porté par 8 papes, mais n'a plus été utilisé depuis Urbain VIII, au 17e siècle. De même, le nom de Clément, autrefois fréquent, 14 papes, semble aujourd'hui tomber en désuétude. Enfin, certains prénoms sont définitivement évités pour des raisons symboliques. Il est très improbable qu'un pape prenne le nom de Pierre II, par respect pour l'apôtre Pierre, considéré comme le premier pape de l'Église. Ce choix pourrait être perçu comme une prétention à égaler ou succéder directement au fondateur de la papauté. Le pape François a-t-il innové en choisissant son prénom? L'élection de François Ier en 2013 a marqué une rupture avec les traditions. C'est la première fois qu'un pape choisit ce prénom, en référence explicite à Saint François d'Assise, symbole de pauvreté et d'humilité. Ce choix inédit montre que, bien que certains noms soient très répandus, l'Église catholique peut encore innover en matière de noms pontificaux. Le pape François a voulu inscrire son pontificat dans la continuité de son modèle, mettant l'accent sur l'aide aux pauvres, la simplicité et la réforme de l'Église. Ce choix unique montre que les papes ne sont pas tenus de reprendre un nom existant et qu'ils peuvent opter pour un prénom porteur d'un message fort. C'était Jean, Benoît, Paul. Et quels sont les noms les plus portés par les papes? Un texte de la rédaction paru le 22 mars 2025 dans « Ça m'intéresse ».